matinale avec Léla Gadot.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour Daniel.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Nadine.
Tanguy Pastureau. Et nos invités Damien Bonnard, Alexis Malenti et Thierry Zonga.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. En plus, c'est une première pour chacun des trois. Évidemment, c'est une première pour les trois ensemble, mais c'est la première fois que vous venez dans cette bande originale et on est ravis, d'autant plus ravis qu'on s'est pris une claque, hein, y a pas d'autre terme.
C'est ça, un bon coup de poing dans la gueule.
Avec le film de Lajeli qui s'appelle Les Misérables, ce film qui sort au cinéma ce mercredi et dans lequel vous interprétez. Alors c'est vous un peu Damien qui êtes le premier à débarquer, quoi. Vous débarquez de Cherbourg.
Ouais, moi je l'ai rejoint. En fait, je me fais muter pour rejoindre mon enfant dont j'ai plus la garde et du coup j'intègre leur brigade. Donc on arrive par mon regard, enfin. En partie dans le film.
Ouais, c'est ça. On est plutôt, on est proche de votre point de vue pour arriver dans une bande déjà existante, jouée par Alexis Malenti et Djibril Zonga. Là aussi, il y a des rapports un peu particuliers. Vous êtes le patron,
le boss
du duo.
Ouais.
C'est ça. Le meneur de la. Vous êtes de bonne humeur ou pas, Alexis?
Alors toujours.
mais pas démonstratif. Voilà, c'est ça.
Mais voilà, je laisse les gens percevoir au fond de moi.
C'est en même temps, c'est de la radio. C'est de la radio, c'est ça. Ils peuvent pas toujours voir dans l'œil qui brille là cette déclaration d'amour que vous êtes en train de me faire, mais. Ok.
Non, vous êtes un peu le leader en fait de cette équipe, un peu le flic grande gueule qui aime bien se manifester en public, qui.
Bah, voilà. Puis le salaud. Un peu de service aussi, il faut dire.
Non, il y a de la tendresse aussi.
Tout ça, c'est plus compliqué, je crois, mais a priori, à première vue, c'est pas forcément
c'est pas
le mec avec qui on a envie d'être super pote. A priori, mais c'est vraiment le début.
Je
du
dirais,
film.
Chacun choisit ses amis.
Ça va être long, ça va être hyper long.
On a toujours besoin d'un plus petit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ok, on va jouer au jeu des citations.
En tout cas, ravi de vous accueillir, Maître Yoda.
Djibril Zonga, vous êtes la force tranquille un peu de ce binôme et peut-être d'ailleurs la petite part d'humanité aussi.
Ouais.
Dans le twist qui peut intervenir dans le film. Vous avez grandi dans ce quartier de Montfermeil.
J'ai grandi à Clichy-sous-Bois exactement, au Chêne Pointu. J'ai traîné à Montfermeil. C'est comme ça que on s'est rencontré avec Ladj. Mais c'est vrai que le film, on l'a tourné au Chêne Pointu parce que c'est devenu les bosquets de l'époque en fait.
Lajeli étant le réalisateur de ce film, comment il vous l'a raconté, comment il vous l'a présenté d'ailleurs quand il vous a proposé le projet? Il vous a réunis tous les trois ou il vous a parlé Alors, chacun dans votre coin?
On a fait le court-métrage avant.
Ouais.
Et donc moi j'ai sollicité Lajeli parce qu'il n'avait pas pensé à moi pour le rôle, donc du coup je l'ai appelé, etc. J'ai passé des essais, il y a une petite histoire et tout que je raconte, mais c'est comme ça que j'arrive sur le projet.
Coécrit par Alexis.
Par Alexis. Et moi, je suis arrivé par Alexis, avec qui je venais de tourner dans un film qui s'appelait Voir du Pays. Et on avait joué ensemble et il m'a présenté à Ladj avec le court-métrage. Et du coup, je suis parti avec eux faire le court-métrage.
Quand on dit coécriture, Alexis, comment ça se passe? L'un des deux a une idée, l'autre la développe. Comment vous avez travaillé ensemble avec Ladj? Bah,
en fait, à l'origine, c'est Ladj qui est venu me voir avec. Il avait déjà une idée de court-métrage prenant pour thème les violences policières avec. Du point de vue de trois policiers. Ouais. Et il m'a dit donne-moi des retours. Et à force de lui faire des retours, il m'a dit mais est-ce que tu veux pas m'aider à écrire? Et donc on a écrit ce
aussi
premier
bien
court-métrage.
Aussi bien le court-métrage que le long.
Ensemble. Ouais. Et ensuite pour le long-métrage, on a eu la joie d'accueillir Giordano Giderlini, qui est scénariste que la production nous a
parce qu'il fallait quoi? Plus structuré, il fallait quelqu'un qui a un regard un peu extérieur à cette histoire aussi, et qui apporte de l'attention, du suspense ou de la vanne. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il a apporté?
Non, mais moi, c'est pas mon métier à la base, scénariste, et c'est quelque chose. Enfin, c'est un exercice très compliqué qui demande quand même beaucoup de compétences, et donc c'était bien d'avoir quelqu'un avec nous qui nous aide à structurer l'histoire, à nous remettre en question, à interroger plein de points du récit. Donc en fait, c'était vraiment essentiel.
Ce qui est fort dans ce film, c'est que on est d'abord dans sa manière dont il est réalisé. On se demande si on est dans du documentaire. On se demande la manière dont vous jouez extrêmement naturellement et crédible entre guillemets cautionne cette histoire où on est totalement dans le dans on est dans la cité quoi, on habite pendant quelques temps au milieu de tous ces toute cette cité avec ce rythme de vie, avec ce voisinage, avec ces avec les bruits, l'ambiance, la tension, le regard, le sentiment d'injustice.
Et à la fois on reconnaît ça très très bien, et en même temps j'ai la sensation qu'on voit une autre image de ce qu'est une banlieue, avec parce que en effet cette dimension documentaire quand on voit des reportages à la télévision, éventuellement les forces d'intervention sur place, mais le cocktail habituel qu'on nous sert est pas du tout là. C'est-à-dire que il est pas question ni de trafic de drogue, ni de voilà. On a une autre, je trouve, et c'est en ce
on a
sens
plusieurs, et on a plusieurs points de vue. On n'a pas que voilà. Que le point de vue du reportage.
Et
on
le
a,
film, voilà, il est
des deux côtés.
Il est essentiel pour ça parce qu'il n'est pas manichéen, c'est pas la bande des trois que vous incarnez les flics, à savoir les salauds, c'est pas non plus les jeunes. Donc on a tout d'un coup, je trouve, une photo qui me semble, sans bien connaître non plus la cité, hein, mais qui me semble être au plus près, et c'est ce que je pense qu'on peut accorder à l'Ajli, ouais. de la réalité. Et c'est en ce sens, je trouve, que ce film fera date. De façon vraiment essentielle.
On va. Je dis souvent que c'est le marquage d'une époque en fait, mm-hmm. Et c'est totalement ce que vous venez de dire.
Il a pris le temps de le montrer. En fait, il y a un grand temps. Tout le début du film, c'est vraiment ça. C'était une espèce de d'immersion. Enfin, prendre le temps de montrer cet endroit, la vie là-bas, les gens. Enfin, c'est un vrai choix quoi, artistique.
Ouais, ouais, et c'est très humain. C'est très humain, et en étant un pur film à suspense aussi et à action. On va parler de ce film, évidemment, continuer de parler de ces Misérables jusqu'à midi et demi, mais d'abord des questions concernant, par exemple, Damien Bonnard. Après ses études, pourquoi est-il parti 2 mois en Algérie? Non, c'est eux qui l'ont trouvé.
C'est eux
pour voir si la musique a fait hyper peur là. Hein.
Il y a quand même 15 000 euros à gagner. Donc,
Origines, une histoire d'amour, une envie d'évasion, envie de comprendre l'histoire coloniale de notre pays.
Non, il s'est trompé de destination.
Une envie en tout cas de comprendre une histoire sûrement et d'aller sur les traces d'une histoire, mais.
De famille,
ses parents, de sa famille.
Non.
L'Algérie, l'histoire.
D'un homme, d'un écrivain, d'un auteur, d'un réalisateur, d'un auteur Camus.
Exactement. Bravo. C'est la lecture d'Albert Camus qui vous a donné envie de partir 2 mois.
Ouais, je suis parti là-bas. J'ai été dans Atipaza, qui est la ville où il a écrit. L'été, enfin l'étranger. Et voilà, et c'est une ville, une ancienne ville, enfin une ville avec des ruines romaines. C'est une très belle ville.
Qu'est-ce qui vous a ému dans l'étranger?
Je sais pas. C'est loin maintenant, mais c'est une littérature qui m'a toujours touché. Je saurais même plus vous dire en fait. Des fois, je vois les choses, je les lis, et puis elle rentre, et puis après, je sais plus ce que c'était, mais c'était beau.
Comment le grand public a découvert Djibril Zonga?
Il est mannequin, c'est pas un truc de Luc Besson. Non, attends, c'est dans quoi
Est-ce que c'est pour le mannequinat ou pour le jeu?
Ouais.
Donc une campagne
Gauthier.
Une campagne, un défilé,
ouais. Trouver un créateur là.
Il faut trouver la manière dont il était
Mannequin de main.
Non.
Dont il a été cassé.
Mannequin de pied.
Dont il était présenté.
Le slip.
Physiquement. Non.
Il était présenté physiquement, il était sur un plateau.
Physiquement, il était voilà. Il était
huilé. Si je
c'est huilé. Bien dit.
Il était quoi?
Huilé.
Eh ben écoute, je vais prendre ça.
Très bien.
Huilé.
Puisque vous étiez nu.
Oh là là, le dossier qui fait mal.
Comment oui, on est à la radio, c'est ça qui sauve.
Pourquoi le dossier qui fait mal? Parce que je peux vous garantir que dans l'équipe, en tout cas, personne n'oserait le faire. Donc
c'est Diesel, c'est ça?
Ouais.
Ouais. J'ai fait une pub. Ma première pub, ma campagne mondiale. On m'avait annoncé qu'il fallait
être nu.
On allait me voir nu, et du coup, c'était un truc vraiment. Ouais, mais on voit pas. On voit très.
C'est jamais les potes qui cherchent les doses.
Ouais.
Mais c'est-à-dire que pendant 2 secondes, on se dit, je vais refuser parce que je ne veux pas le faire.
Ouais. Franchement, parce qu'on me l'annonce. On me l'annonce la veille, je crois. Et on me dit, ouais, bon, ça va se passer comme ça. Et je leur dis, putain, non. Et finalement. Le chèque, ouais.
C'est ça?
Ouais.
Oui, non, puis c'est Diesel.
Le chèque, si après c'est Diesel.
Non, mais le chèque et la bouffe, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut manger.
Ouais, faut manger. Après, bon, ça, c'est une expérience, hein.
C'est une pub pour des habits et t'étais nu?
Mais dans les yaourts, ils se mettent tout nus aussi. Donc, à la limite, faut faire l'origine.
Quand l'Adjeli parle à Alexis Mainty de son rôle, quelle expression emploie-t-il? Comment décrit-il le rôle d'Alexis?
Ah.
Perdu.
Non.
C'est un
méchant.
Fils de.
Un agressif passif. Une petite insulte?
Ouais.
Ah bon, bah
victime.
Voilà.
Victime.
Non.
Et on peut les dire?
C'était pas loin de
un
fils de.
Un gros
con?
Exactement.
Ouais.
Ah ouais.
Il a présenté votre personnage en disant ça. Un gros connard.
Écoute, je peux pas lui dire grand chose parce que c'est lui qui réalise. Je le laisse parler.
Non, mais c'est ça. C'est comment définir le gros connard.
C'est dans le dossier de presse.
Non, mais c'est relatif. Voilà, c'est ça. Et puis on est tous le connard d'un autre. Donc comment lui l'explique-t-il en disant c'est un connard?
Faudrait lui demander. Mais je pense que connard, c'est bien, c'est une expression un peu française, puis c'est un peu à l'ancienne. Connard. Voilà.
Ah, c'est pas le même celui-là. Hein.
Ah oui, ah, mais il est.
Connard, c'est pas le connard.
Connard.
C'est pas le même. Hein.
Il y en a, il y a deux autres.
Non, mais c'est les gens aiment bien le dire comme ça aussi.
D'accord. Et vous le prenez, vous, ce personnage, vous l'avez joué comme un sombre idiot qui n'a aucune sensibilité, aucune intelligence?
Alors, par instant, peut-être que j'ai pu me laisser tenter, mais en majorité...
Je parle des personnages.
Oui, bien sûr, bien entendu. mais non, on a essayé de... Enfin, déjà à l'écriture, on a essayé de rendre le personnage un peu paradoxal, attachant à certains endroits.
Attachant?
Ouais. En fait, il a quand même un visage un peu... Quand il est avec son équipe, il fait des blagues. Quand il est dans sa voiture, il est...
Mais elles sont nulles, ces blagues.
Oui, ces blagues sont... Après, je te laisse pas... Le public jugera de mes blagues.
Oui, parce que vu que c'est le co-scénariste, il a dû en écrire deux, trois. Donc...
Mais non, mais il écrit des vannes, justement, d'un sombre idiot. Donc,
non, mais c'est un misérable comme les autres. Quand on le voit rentrer dans sa famille avec ses filles qui se chamaillent, on le voit complètement paumé. Il est hyper touchant, ce garçon.
C'est une armure.
Ouais, c'est ça, c'est une forme de protection aussi, c'est sa manière peut-être de... Ouais,
la solidarité des collègues, ça me touche, les gars.
On va se défendre. Hein,
alors que le film est fini, hein. Ouais. On pourrait très bien maintenant se désolidariser totalement. De quelle manière un peu particulière Bertrand Blier a-t-il mis à l'aise Damien Bonnard pour ses débuts sur le bruit des glaçons, hein, c'est ouais, ça
ouais. En le mettant nu aussi que,
non,
en le faisant
non.
boire
non.
En lui disant il n'y a pas de texte, là tout de suite.
En faisant fumer.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre... Parce que
Bertrand Blier...
En se mettant nu.
Non.
Pour le mettre à l'aise.
Ouais, c'est-à-dire que après la première scène tournée,
oui. C'est pas grave, j'ai pas enregistré quoi, j'ai pas tourné, j'ai pas lancé
genre-là,
la cam.
Il lui a fait,
on la garde pas.
Non, pas loin. Il lui a dit un truc et puis.
Ce sera pas la bonne.
On
s'en fout.
Si jamais on te coupe au montage, si t'es mauvais.
Pas loin, mais c'est pas ça.
On te coupera même si t'es bon.
C'est même un peu surprenant de la part de Blier, ouais.
T'es dedans.
C'est surprenant.
De toute façon, je m'en fous de ce film.
Le début est surprenant, pas la chute. Je peux pas vous aider.
C'est pas bon, je le garde.
C'est, eh ben, écoute, tu sais quoi? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il vous a d'abord engueulé.
Ouais, je suis rentré dans la pièce à Action, et je devais tirer sur un Alvaro et Jean Dujardin, et j'ai fait, je pense, un demi-pas, il a dit coupez. Tu vas jouer comme ça tout le temps, là? Et du coup, j'étais pétrifié sur place, et il a juste dit, non, je déconne, c'était très bien, on reprend. Mais parce que
punaise!
Je pense qu'il est. En fait,
mais
j'avais pas passé le casting.
L'ascenseur émotionnel, il est chaud.
Non, mais j'avais fait une rencontre, mais sans passer d'essai, donc effectivement, il pouvait être surpris de mon jeu.
Non, mais c'est une sale blague.
Mais en fait, non, c'était parce que je pense qu'il me sentait tétanisé et que du coup.
Il a voulu désacraliser.
Ça a marché, ouais. Ça a très bien marché.
C'est pour ça qu'on retrouve un peu l'humour froid ou buffet froid de Blier. Ouais. En même temps, elle est violente, la vanne, quand même, parce que.
Ouais, mais elle est bien, ouais.
Elle est bien.
Après, j'avais comme des chaussons, quoi.
Et ça a marché? C'est-à-dire, ça vous a totalement détendu dans vos rapports avec lui?
Directement. Après, j'ai fringué les deux autres.
Avec délectation.
À quoi Djibril Zonga est-il capable de consacrer 6 heures dans une journée?
Sport.
Alors, sport, mais lequel?
Karaté.
Muscu, non.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
La course,
non.
Vélo.
Foot.
Qu'est-ce qu'on fait pendant 6 heures?
Mais en foot, mais comment?
Foot sale.
PlayStation, FIFA.
Pardon?
FIFA.
Exactement.
Ah, jeu.
C'est vrai? Putain, les infos bizarres.
FIFA.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai.
Non, c'est PES maintenant. FIFA, c'est fini.
Ah
ouais? Ouais, PES. C'est une drogue, hein. C'est vraiment, oui, vraiment.
6 heures par jour, sans déconner. Ouais,
ça explique votre physique?
Ouais. Non, mais j'ai eu ma période,
on va le dire, on est à la radio. Il est grave gaulé, quoi. Ouais. Il est gaulé.
J'ai eu ma période un peu de drogué, et puis voilà.
Mais oui, Damien aussi dégaulé.
Damien? Non, bah Damien, faites une pub nue pour Diesel, on vous dira comment ça se passe.
J'ai déjà fait du nu.
Chez Alain Guéraudy, par exemple, je vous ai vu un petit peu. Par exemple.
Et donc FIFA, on est accro. D'abord, vous jouez en ligne, vous jouez avec des potes,
ouais,
comment ça se passe?
Je joue en ligne avec des potes. On a même un comment dire, un groupe. Ouais. Donc du coup, ouais, ça. Bon là, j'ai pas trop le temps, mais dès que je peux, voilà.
Vous êtes accro. Ouais. Pourquoi la maman d'Alexis, Madinti, a connu la cité de Montfermeil avant lui, alors que sa famille n'est pas originaire de cette cité ?
Elle avait un amour là-bas ?
Non.
Elle donnait des cours là-bas ?
Non.
C'est en lien avec la Corse, avec l'histoire familiale, non ? Parce que
Parce que quelqu'un, elle a participé à la construction, quelqu'un de sa famille.
Elle n'est pas de la cité Montfermeil, pourtant elle y allait.
Du boulot.
Oui, exactement. Maman infirmière, c'est ça ?
Pas du tout.
Ah, votre maman n'était pas infirmière à Montfermeil ?
Non, pas infirmière, elle était psychologue, elle est psychanalyste, elle travaillait à l'hôpital qui est au Bosquet, aux soins palliatifs, où elle accompagnait des gens là-bas pendant pas mal d'années.
Vous n'avez pas relu le dossier de presse, alors je n'aurais pas demandé de corriger le mot infirmière.
Ah, je ne l'ai pas, j'ai pas vu.
C'était dans le dossier de presse. Non, c'est pas
d'accord,
grave.
Bah
on va les punir, oui, on va les punir. Damien Bonnard, Alexis Mainanti et Diego Elizondo, donc c'est Misérables. D'ailleurs, les Misérables, est-ce que c'est votre bande ? Est-ce que c'est ceux qui sont autour de vous ? Est-ce que c'est la police ?
C'est tout le monde
aujourd'hui. On peut même dire qu'on aurait pu en rajouter avec tout ce qui se passe des Misérables en France. Mais ouais, dans le film, c'est tout le monde.
Les violences policières, alors à part l'arrivée d'un nouveau qui est muté pour suite après un divorce, hein, c'est ça, c'est pour être là en garde partagée près de son fils. Comment raconter le film sans déflorer ? Parce que je l'ai dit, il y a du suspense, il y a de l'action. La fin, elle est dingue, mais tellement dingue cette fin que voilà, on a envie de on a envie de frapper son voisin.
Il n'y a pas de fin.
La fin est dingue. Ouais. La fin est dingue. Donc voilà, tu l'interprètes comme tu veux. La fin elle est dingue à tel point où on se dit non, c'est pas possible. Ou alors il faut qu'il y ait un volume 2.
Non, il y a une phrase qui finit le film
ouais,
aussi.
Ouais, c'est ça.
Citation. Une citation de Victor Hugo qui clôt le film qu'on dira pas, mais qui
voilà. Avant d'arriver à la fin, comment commencer le début ? Comment expliquer ?
Ouais. C'est pas évident parce qu'il se passe plein de choses, mais c'est quand même un film. Enfin, l'idée principale, c'est ce qu'on avait dans le cours aussi, c'était de faire le constat de suivre des enfants qui jouent, qui veulent juste jouer dans cet univers-là et qui en jouant se retrouvent mêlés à toutes les combines et tous les arrangements des adultes, enfin toute la vie des adultes qui est pas la leur en vrai et en fait en jouant ils se retrouvent victimes de ça, enfin ils sont déjà
ouais et puis il y a toutes les tensions dans les différents groupes à la limite déjà il y a des groupes dans la cité et puis la police fait partie d'un autre groupe et il y a tous ces rapports de rapports de force même
des tensions
entre
qui
eux,
sont quand même gérées au quotidien
qui ouais, ouais. C'est-à-dire que entre groupes certains veulent être les tauliers du quartier Alexis.
Bah chacun essaye un peu de défendre son petit morceau de
son business.
Ouais, essaye de manger, ouais. De survivre, et donc il y a beaucoup d'arrangements, beaucoup de compromissions. Donc en fait, c'est un ensemble de compromissions qui mène à des fois des tragédies. Il y en a qui ferment les yeux, il y en a qui
réagissent
par la force.
Et c'est l'une des scènes fortes d'ailleurs du film. J. Will avec vous aussi. Il y a les parents, le pouvoir des parents ou la situation désespérée de certaines mamans qui ne savent plus comment gérer ou avoir l'autorité sur leurs propres enfants.
Ouais. Après, moi pour mon personnage, c'était une scène importante parce que justement, vous avez parlé d'humanité au début, et c'est le seul moment où je pouvais, montrer ouais. une sorte de rédemption et justement que c'est tous des êtres humains, même ces policiers qu'on a l'habitude de juger.
Et puis surtout, voilà, c'est un gamin en fait. Lui aussi est le fils de quelqu'un.
Et lui aussi est le fils de quelqu'un, ouais. Et voilà, ça aurait pu être son. On va pas raconter, mais.
Non.
Ça aurait pu être son frère, son fils, je sais pas, mais voilà.
Oui, et puis ces policiers ont grandi dans cette cité. Donc
lui, ouais.
Il la connaît.
Ouais, exactement, il la connaît, il a été comme eux, et aujourd'hui il se retrouve de l'autre côté, donc c'est pas facile. Il est, moi je dis souvent, c'est la frontière entre la police et ces jeunes de banlieue, donc voilà, c'est pas facile de garder, d'avoir un pied entre les deux.
Qu'est-ce qui est vrai, Alexis, dans ce film? Parce que moi j'ai l'impression que tout est vrai, mais est-ce que vous êtes basé sur plein d'histoires qu'on vous a racontées, de témoignages ?
Il y a une part de fiction, mais il y a beaucoup de Il y a beaucoup d'histoires. Il y a
la vidéo, après, la notion de vidéo, c'est vrai.
Oui, par exemple, ouais, ouais, ouais. Là, en fait, il a.
Alors, on peut le dire. Il y a une bavure policière qui a été filmée par l'un des enfants de la cité.
Ouais, c'est dans la bande annonce, on peut le dire. Ouais. Et ouais, et en fait, c'est Ladge, il a beaucoup filmé la vie de son quartier. Et il faisait du cop watching, c'est-à-dire qu'en fait, il surveillait aussi. Enfin, il filmait la police lors de ses interventions. Et il a filmé une bavure un jour, enfin une violence policière. Et il a diffusé la vidéo. Et suite à cela, il y a des policiers qui ont été suspendus. Il y a eu un jugement. Et en fait, là, avec cette histoire, il part de ce fait divers, de ce fait tragique, pour le porter à l'écran avec toujours cette vidéo.
Donc c'est un film qui humainement a une comment dirais-je. C'est une forme d'exutoire aussi pour Ladge, Lee, de raconter tout ça, de le vivre et d'en faire une œuvre.
Bah, ça fait.
Parce que oui, j'imagine que c'est un traumatisme de vivre une situation comme ça.
Il expliquait que souvent, quand il y avait des problèmes entre, on va dire, les jeunes et les policiers, ils sortaient la caméra et la caméra apaisait tout le monde.
Bah, bien sûr, ça servait beaucoup à ça. Après, il allait beaucoup parler aux jeunes, à partir des émeutes, à partir de 2005, il a toujours été là et ça, il allait leur parler pour apaiser, pour calmer les jeunes, et la caméra, elle avait cette force aussi forcément de donner une présence journalistique.
Ouais. C'est une arme et à la fois c'est une façon d'apaiser. D'ailleurs, dans le film, c'est son fils qui incarne le garçon qui filme. Enfin, oui, il y a aussi.
Un drone, la caméra est devenue un drone.
Ouais.
Alassane Lee, grand acteur.
Ouais, qui, du coup, c'est aussi émouvant quand on l'apprend après de se dire que cette vidéo a existé, que dans le film, c'est son fils qui porte ce rôle-là de déclencheur, de lanceur d'alerte.
Il y a un truc de passation et de transmission qui est émouvant.
Ouais. Ouais. Nous, il nous l'a annoncé un jour, comme ça, on ne savait pas du tout. Quand j'ai écrit le personnage pendant des mois et des mois.
Vous ne le saviez pas ?
Non, c'est
pas
que
c'était fou. Il ne me l'a jamais dit. Et puis,
non, mais même à Alassane, la manière dont il l'a pris un jour, il a dit « Viens avec moi, je t'emmène quelque part ». Et il l'a amené, il lui a dit « Bon, maintenant, tu passes les essais ». Il lui a fait passer les essais et c'est comme ça qu'il ne savait pas du tout qu'il allait...
Alors, pardon, ce que je voudrais juste comprendre, vous ne saviez pas que son fils allait jouer ou vous ne saviez pas qu'il avait filmé des violences policières avant ?
Non, pas par rapport à son fils, par rapport au rôle tenu par son fils, on a été...
D'accord.
On l'a appris...
Au dernier moment.
Au dernier moment, il nous a dit « Bon, c'est Alassane qui va jouer Buzz ».
Il est génial, ce petit.
Ouais, ouais, il est incroyable. Ouais.
En tout cas, il y a eu beaucoup de films sur les banlieues. La haine, évidemment, c'est le premier auquel on pense. Et j'imagine que systématiquement, toutes les interviews, on vous en parle. Mais mais celui-là, il y a quand même quelque chose. Je sais pas. Il y a quand même quelque chose de différent. Déjà, c'est un bon film. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'étaient pas, mais c'est un très bon film. Et puis encore une fois, on s'en rend compte là. C'est pas de la fiction.
Non. Et puis c'est un film en plus.
Il y a une partie fictionnée, mais
c'était pas la même époque non plus entre la haine et aujourd'hui. Il s'est passé.
Non, mais c'est pas la même histoire. Mais je.
Puis je trouve qu'il y a un questionnement aussi quand même dans ce film. En effet, tous sont des misérables et on le voit bien quand on accède à une partie de leur vie privée. Et puis ça pose cette question. Vous parliez tout à l'heure du gap entre les adultes et les enfants, ça pose la question de l'injustice. Parce qu'à partir du moment où une situation n'est pas juste, on se doute bien que ça ne va pas engendrer forcément que des belles choses. Et on peut du coup étendre cette question plus globalement à la société française. À partir du moment où on n'est pas juste, ça ne veut pas dire qu'on excuse ce qui se passe derrière, mais ça veut dire qu'on peut expliquer et qu'on a forcément, on a nous-mêmes quelque part œuvré à générer des situations conflictuelles parce qu'initialement c'était pas juste. Et je trouve que on sort de ce film en se disant, c'est un film qui remue. Enfin, il faut quand même.
Ouais, et puis on se dit qu'il y a du boulot encore.
Ouais, il y a énormément de boulot, mais on part et on se dit je peux pas faire semblant de pas savoir vraiment.
Là, c'est en ça qu'il est fort. C'est là où je dis qu'il y a un côté documentaire, c'est que on n'imagine pas que ça puisse se passer comme ça. Ce que je trouve très intelligent, c'est que c'est pas ni le point de vue uniquement de ceux qui peuvent se sentir agressés par des violences policières, ni le point de vue des policiers qui disent qu'ils voulaient qu'on faire. On peut pas gérer. De toute façon, ça part dans tous les sens. Donc il y a un flashball qui part. Ça peut arriver. Faute professionnelle. Ouais. On y a droit. Donc c'est vraiment.
Je trouve que c'est apaisant d'avoir un film comme ça sur dans ce milieu où c'est pas le conflit toujours qui est poussé à l'extrême. On voit que ça mijote, que ça boue, mais il y a quand même cette volonté de vouloir apaiser pour que chacun puisse continuer à vivre dans le même environnement.
Et c'est pas simplement les bons et les méchants, en tout cas.
Il y a... puis se repenser les uns les autres. Enfin, moi, je sais que mon personnage, par exemple, j'ai beaucoup travaillé autour du regard et le fait que le regard induise un jugement et des actes.
Ouais.
Et le film, il parle aussi de tout ça, d'essayer de modifier ça, d'arrêter de
c'est mettre un regard les... aussi sur beaucoup d'interrogations, hein, pardon. Il y a aussi, comme vous découvrez tout et qu'on est avec vous, on a le même regard que vous au début en disant, OK, alors lui, c'est ça, lui, c'est ça. Lui, il est de ce côté-là, lui, il est de l'autre côté. Lui, c'est la même bande que machin. Et donc, on découvre un peu en 3D comme ouais. ça, en même temps que vous, exactement le
de la géopolitique ou de la cité
ouais c'est ouais. ça ouais. Et puis les codes
c'est hyper difficile parce que vous êtes bousculé à chaque fois. À un moment on vous dit mais vas-y excite-toi réveille-toi vas-y agis, puis d'autres moments on fait ouh calme-toi, il sait pas où se mettre, et c'est là que dans le regard on sent qu'il est perdu de temps en temps.
Ouais, et puis comment réagir à chaque situation mais différemment. De jamais réagir de la même manière pour chaque, enfin c'est tout ce travail là quoi.
Bref, vous l'avez compris, c'est un très bon film, essentiel à voir.
Qui va représenter la France aux Oscars, hein, c'est pas par hasard non plus.
Et c'est signé Ladjli, ça s'appelle Les Misérables, et c'est mercredi au cinéma. Vous n'avez, bonne nouvelle Alexis, plus à rien faire maintenant. Non. C'est Tom Villa qui pose des questions et qui donne les réponses. Ouais.
Messieurs, bienvenue dans la bande originale. Alors, je vais pas être très très original en disant que, tant dans la forme que dans le fond, Les Misérables, c'est un film très fort qu'on peut découvrir à travers vos yeux, comme l'a dit Nagui il y a quelques instants, Damien, puisque vous êtes un peu le petit nouveau qui débarque dans cette banlieue.
Moi, j'ai jamais vécu dans des quartiers comme ça.
Oui, d'ailleurs, je me disais, après le tournage du court-métrage, après le tournage du film à Montfermé, j'imagine que maintenant vous êtes un peu, un petit peu plus imprégné de cette culture du 9-3.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu?
Eh oui, Alors, au niveau du flow, on n'y est pas encore tout à fait, mais il y a de l'idée. Hein.
C'est marrant, on rigole. C'est bien écrit.
Ah, merci Djibril, c'est gentil, ça fait plaisir de voir son travail reconnu, parce que c'est vrai que nous, quand on est chroniqueur, on travaille dans notre coin, on n'a pas forcément énormément de retours. Et oui, Damien?
Je dois partir de moi, est-ce que tu veux garder la maison?
Voilà. Ah d'accord, en fait, c'était intéressé tout ça. Franchement, ça commence à marcher pour vous. Vous pourriez, je sais pas, payer quelqu'un qui passe de temps en temps à arroser les plantes.
Peu d'argent, peu de moyens.
Et pas de verbe, surtout. Pardon, mais je croyais que financièrement, c'était cool. Pour Djibril, c'était combien le cachet pour le film?
10 millions.
Ah ouais, comme dit Nagui, une fois qu'on a payé les impôts locaux de 3 restos, il reste plus grand chose, mais enfin quand même. En plus, avec le succès de ce film, vous devez avoir pas mal de propositions, Damien, non?
J'ai fait pas mal de films en très peu de temps.
C'est-à-dire parce que, par exemple, Les Très Belles Années, Cadmérade, il faisait entre 3 et 4 films par an. C'est quoi beaucoup de films en très peu de temps pour vous?
Entre 5 et 7 films par jour.
Par jour? Wow. C'était qui le réel? C'est Jean-Pierre Mocky ou c'était Nabila? Je sais pas, mais je... C'est fou. Alors je me demandais, tiens, quand on est acteur comme ça, quand on vit de sa passion, j'imagine qu'on a du mal à imaginer un autre métier. Vous, Damien, vous auriez pu faire quoi?
De la pêche, de la construction de maisons.
Ah ouais, vous avez pas mal d'autres envies, c'est intéressant.
Ramasser des algues, pêcher des anguilles.
Merci.
Yolo.
Ouais, non mais ça va, je crois qu'on a compris que vous êtes ouvert à plein de métiers. Et...
Un hôtel, un libre service.
Merci Damien.
Des archéologues, des astronautes.
Non mais stop, on est en train de vous faire tout le catalogue du Pôle emploi là, c'est fou.
Tu es en série?
Oui, et pas que. Hein, Djibril, aidez-moi s'il vous plaît.
Le cheval, le dessin.
Ouais, bon, alors pas comme ça. Bon, Damien, franchement. Je trouve que vous en faites un petit peu trop. En vrai, votre but professionnel dans la vie, ce serait quoi?
Non, rien faire de sa vie et vider le frigo.
Eh ben, comme Daniel. Allez, bonne émission.
Merci. Ça s'appelle Nagui, la bande originale. En un mot, comment vous définissez votre personnage, Alexis Mainty, pour sortir de ce que j'ai dit tout à l'heure, ou de la manière dont on vous l'avez présenté?
Ah, c'est
vous
très difficile en un mot, mais...
Un petit chef? Parce qu'il joue, à ça, en fait. Il joue de son autorité, beaucoup.
Oui, il joue beaucoup de son autorité, mais je pense que c'est un impulsif. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup d'aller vers les choses, des fois, sans réfléchir.
Djibril, votre personnage, vous le définiriez comment?
Pétri de contradictions, profondément humain, et... sensible.
Damien?
Courageux, moi. Ouais.
Enfin, c'est quand même le seul qui sort de la voiture en mettant son brassard police, alors que c'est... ça, c'est là. C'est la vanne. Ouais, ouais, c'est ça le courage. Moi, je suis policier.
Non, mais courageux, non, mais en fait, c'est quelqu'un qui est là, il essaie de faire son métier du mieux qu'il peut, il relie son code de déontologie tout le temps, il essaie de re-questionner les choses à chaque fois, mais il reprend son métier pour ce qu'il est aussi, c'est sauver des vies, enfin, c'est plein d'autres choses.
Ouais, c'est le plus poli des trois aussi, extrêmement poli.
Ouais, ouais, j'essaye.
Mais il vient d'arriver.
Oui, c'est ça.
Ouais, il vient d'arriver, mais
il vient d'arriver. C'est, il explique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas courageux et pas tout ce que vous venez de dire, mais
il explique qu'il faut savoir s'excuser. La phrase est quand même présente et je la trouve très importante pour tout le film.
Ouais, mais je pense que les deux autres coéquipiers pouvaient éventuellement penser ça le jour où ils sont arrivés en poste dans ce commissariat. Peut-être que le temps passant, on oublie un certain nombre de choses. Quoi.
Oui, mais cette fraîcheur va dénouer une situation.
Bien sûr, mais bon.
Ouais. Voilà. Les Misérables, c'est au cinéma ce mercredi. Et Marina Rollman, c'est tout de suite.
Ah oui, d'accord. Ça tombe bien qu'on parle de cinéma. Moi, il y a 10 jours, j'ai vu le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, dans lequel on a Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, tout ça. Dans la foulée, j'ai vu le dernier film d'Eddie Murphy. Et j'ai appris qu'en plus de revenir pour du stand-up, il allait sortir un nouveau volet du Flic de Beverly Hills et d'un Fontaineur.
Non.
Il y a quelques semaines, il sortait les derniers volets de Rocky et Rambo, tandis que le reboot des Charlie's Angels sortira sur nos écrans en décembre. Ouais. J'ai vu des affiches pour Starmania dans le métro qui reprendra l'année prochaine à la scène musicale. Tandis qu'une série tirée du Seigneur des Anneaux devrait bientôt voir le jour sur Amazon. On peut ajouter à ça les adaptations ciné-comics de DC, Marvel, Star Wars, Mad Max, Astérix et Obélix, Indiana Jones, etc. Et donc, si on factorise tout ça, j'ai un peu du mal à dire si on est en 1987 ou en 2001. Ce qui est sûr, c'est que d'après le paysage audiovisuel, on n'est pas aujourd'hui du tout. Alors, qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on vive aujourd'hui une telle vague de nostalgie culturelle? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une ambiance aussi régressive qu'on ne veut plus voir que ce qu'on connaît déjà? Alors, les pessimistes vous diront que déjà, les gros studios, ils peuvent plus qu'investir dans des valeurs sûres. Et donc, de faire durer une recette qui marche, c'est l'assurance d'avoir déjà des fans. Bah oui, mais ça explique pas pourquoi ces gens-là, ils ont pas de curiosité, ils ont pas envie de découvrir des choses. D'autres vous diront que on a tout fait, on est foutu, on vit la post-histoire, donc on peut que radoter, tu vois. Et là non plus, je connais plein de gens qui créent des trucs chouettes. Et enfin, la troisième explication, ce serait qu'on vit une période qui fait peur. C'est vrai, je sais pas si vous avez vu ce matin ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, mais c'est la merde. Donc on veut revenir au truc rassurant. Et ben moi, je crois pas. Je crois que vouloir maintenir nos héros et nos comédiens fétiches à tout prix comme ça, tirer beaucoup trop sur la corde, au point que bientôt ils vont nous annoncer un reboot du Mépris, avec un petit caméo de Bardot qui sera là, et mon déambulateur, tu l'aimes mon déambulateur? C'est parce qu'en réalité on a peur de la mort, on a peur de la mort parce que finalement on la vit assez peu. Enfin ça a toujours été non, c'est vrai, ça a toujours été le cas. Les gens qui meurent sont finalement les moins concernés dans cette histoire. Quand tu meurs, tu la vis pas ta mort vu que t'es mort. Oui. Ce que les gens qui restent oublient d'ailleurs souvent. Quand tu perds quelqu'un, t'es débile après, tu sais, tu manges une tarte au pruneau et tu dis oh, mais ça lui aurait fait tellement plaisir. Bah oui, mais non. Toi t'aimerais qu'il soit là, mais lui il s'en fout, il est busy à être mort. Ils sont hyper occupés les morts. Les gens morts, leur agenda c'est full quoi. Ils regardent, ils disent la semaine prochaine je peux pas, je suis mort. Semaine d'après idem. Attends, je saute un peu, 2 septembre 2060, je suis toujours mort. Enfin, après c'est un des seuls repères fixes, hein. Le seul truc qui est pour toujours, c'est la mort. La vie, c'est l'anomalie d'ailleurs. Il y a très longtemps où tu n'existes pas. Longtemps, t'existes pas. Ensuite, hop, pendant 20, 60, 90 ans, t'existes. C'est rare, c'est précieux, donc t'en profites pour faire des trucs importants, genre parler des embouteillages et découvrir le panais. Et à nouveau, très vite, tu n'existes plus, et ce, pour toujours. Mais ça, je crois qu'on oublie parce qu'on repousse l'âge de la mort. On se cache, les gens qui vieillissent, finalement, on voit de moins en moins la mort autour de nous. Donc l'idée devient beaucoup plus tragique et insupportable. Alors moi, je regrette pas du tout les périodes où 2 gamins sur 3 atteignaient pas le CP, on mourait en couche ou à la guerre, tu te faisais emporter par la gangrène parce que tu t'étais coupé avec une enveloppe, il est foutu, on va le laisser. Tu vois. Mais c'est vrai que la mort a pas mal quitté nos vies, au point que le transhumanisme aujourd'hui est en train d'essayer de nous promettre d'éliminer entièrement la mort. Donc on est moins versé dans l'art du deuil, on sait plus le faire. Moi je suis pas prête par exemple. Si on me prend au dépourvu là pour un deuil, j'ai pas de voilette, j'ai rien du tout, je sais pas faire. Mais finalement la fin d'un film, c'est un petit deuil. C'est pour ça qu'on préfère les séries, tu vois, ça s'arrête jamais. Tu peux regarder 80 heures d'un truc comme ça. Et les franchises, c'est pareil, les films qui s'arrêtent non plus. Et il commence à y avoir des techniques de rajeunissement où les comédiens eux-mêmes vont plus mourir. Ils veulent faire refaire des films à James Dean. Ouais, il y a Tom Cruise qui est en train de se mettre en boîte.
Exact.
On va digitaliser leurs visages et les remettre dans des films à l'infini, dans une espèce de très longue autofellation culturelle. Mais la question, c'est, et les vivants dans tout ça? Et les artistes qui ont des trucs à nous dire ici et maintenant, des trucs qu'on n'a jamais vus, des trucs qu'on n'a jamais entendus, des trucs qui, au lieu de nous aider à la fuir, éclaireraient la vie qu'on a ici et maintenant. Eh ben, on en a avec nous aujourd'hui pour Les Misérables, qui n'est pas un reboot de ceux de Victor Hugo. Désolé pour les fans de Notre-Dame de Paris qui, depuis 2001, et la fin de l'idylle, Fiori-Garou, erre sans but à la recherche d'une nouvelle comédie musicale. Non, Ces Misérables-là, c'est pas ça, c'est bien une œuvre originale, c'est brillant, et c'est pour ça qu'il faut aller voir Les Misérables en salle.
Merci.
Ouais. La bande originale, la vie sur France Inter.
Oui, c'est vrai que Les Misérables n'est pas une comédie musicale, puisque le clin d'œil, est-ce qu'on le dit ou est-ce que, pardon, j'ai plus la bande-annonce en tête, la raison pour laquelle le film s'appelle Les Misérables ou pourquoi le clin d'œil est fait à Victor Hugo, c'est dit dans le film, mais je sais plus si c'est dit dans la
bande-annonce.
C'est dans la bande-annonce.
Je sais plus.
Je crois pas.
De toute façon, c'est pas un secret.
C'est pas un secret,
vous pouvez le dire. En vrai, Victor Hugo, il est passé par Montfermeil à l'époque, il y a 150 ans, qui était déjà une petite ville en dehors de Paris.
Il a pour des raisons d'adultère, il a quitté Paris, il est allé à Montfermeil, où il a écrit Les Misérables.
Non, il les a pas écrit là-bas, mais il a rencontré des personnages qu'il a mis dans son roman, qui ont vraiment existé, les Thénardier, enfin, deux, trois personnes. Gavroche, peut-être aussi, je crois.
Ouais.
Et après, il est parti écrire ailleurs, mais inspiré et nourri de tout ça.
D'accord. D'où le lien entre Montfermeil et Victor Hugo. D'ailleurs, je crois qu'il y a des places Jean Valjean où
il y a des Lavoie, je crois, de l'époque.
Ouais. C'est misérable. Et on parlait de comédie musicale. Moi, je voudrais parler de musique. Comment la musique a été appréhendée dans l'écriture du film? On n'est pas inondé de rap. Parce que là, Gilly ne voulait pas faire un cliché, clip, quoi.
Ouais, c'est pas le cliché, la
bande. Non,
la musique est plutôt électro.
Ouais, c'est Pink Noise, qui est un groupe composé de Marc Casanova et Kim Chapiron, et qui ont accepté de rendre des instants hyper particuliers, parce que c'est un film où c'est très difficile, comme il y a beaucoup d'émotions fortes, de rajouter quelque chose, de raconter quelque chose sans trop insister sur des endroits, et je trouve qu'ils l'ont fait brillamment.
Kim Chapiron, qui a une scène cachée d'ailleurs, si vous êtes bien attentif, vous pouvez le voir. Mais...
Ah oui, c'est vrai.
Ah, il y a un caméo Chapiron. Bon, ok, on va retourner voir.
Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est quand on parle de Ladj.
Il y a du monde, il y a du monde.
Ouais.
Les caméos, vous pouvez vous glisser.
Il n'y a pas que Kim, il y a Ladj, je crois.
Ouais.
Romain.
Et ça permet de resituer un peu toute la famille de Courtrage-Mé. Ouais. C'est important d'expliquer un peu, peut-être Alexis, vous connaissez la bande depuis longtemps, je pense depuis début des années 2000, en fait.
Ouais, exact.
Comment vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Courtrage-Mé?
Courtrage-Mé, c'est un collectif, et puis c'est une famille, c'est des amis, c'est des gens mariés, des gens divorcés, des gens perdus. Mais je dis souvent que c'est comme une famille où il y a le frère qui sort de prison, le cousin qui boite, la mère qui regarde la télé. Non, mais il y a plein de c'est plein de gens différents, mais c'est un collectif où on a fait beaucoup de clips et de.
Alors leur point commun, c'est ça, c'est l'image.
C'est l'image surtout, ouais, des clips, des courts métrages. Et donc il y a des acteurs, il y a des gens, Mais en fait, c'était un endroit où. Si un jour tu prêtes ta maison et tu mets pour tourner un film ou ton salon, tu deviens décorateur. Donc c'est un endroit où chacun apportait un peu.
Chacun apporte quelque chose,
voilà, une entraide,
participer. Ouais.
Voilà. Et Damien, vous aviez envie de rejoindre Courtrage-Mé, vous aviez envoyé un mail, je crois, qui était resté sans réponse.
Ça fait 20 ans que vous avez créé ça.
Ouais,
ça
ouais 1995.
Et, non, quand je suis arrivé à Paris et quand j'ai décidé d'être comédien, je me suis dit, tiens, je connaissais pas très bien, mais ça m'a attiré, donc j'ai écrit un mail et j'ai jamais eu de réponse. Mais 10 ans plus tard,
tu l'auras bien fait payer.
10 millions.
Ouais, dans la famille, il y a Romain Gavras qu'on avait reçu, ouais. Il y a Vincent Cassel aussi qui fait partie de l'équipe, mais qui commence. Et donc là, c'est le premier. Enfin, faut quand même dire que c'est un premier film là, Les Misérables. C'est un premier long métrage. Ouais. Enfin, c'est complètement fou. Non seulement vous êtes en effet, vous allez être envoyé aux États-Unis pour les Oscars, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est secondaire. Vous avez eu le prix du public à Cannes.
Ah, bien sûr, c'est complètement fou.
Mais c'est un premier long métrage et c'est
totalement mérité en tout cas.
Bah oui, mais c'est merveilleux.
On pensait même pas qu'on arriverait à le faire déjà le film. Après, on pensait même pas qu'on irait à Cannes. Enfin, c'est. Donc en vrai, ouais.
Bah maintenant, faut plus penser, faut laisser faire le truc parce que il est plus à vous en plus ce film.
Non, dans deux jours.
C'est fait maintenant. Ouais. Il est à nous, spectateurs, et il faut en profiter et puis même le revoir parce que je suis sûr en effet qu'il y a plein de choses qui doivent passer au second plan en termes de cinéma, pas forcément au second plan en termes de valeur, mais qui doivent se passer dans les scènes de films. Et puis c'est des histoires attachantes et surtout très 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 bien jouées, quoi. Le casting. Et vous, évidemment, mais pas que vous, enfin, tous les rôles, les moindres petits rôles.
Tous les microbes,
il y a un truc, il y a un truc dans l'œil, dans le comportement, dans la manière de parler, qui est extrêmement,
Il y a ce besoin de respect aussi entre tous les groupes, comme ça, même avec les enfants, il y a des engueulades, ça part très très fort. Il y a une réflexion qui arrive tout le temps, c'est tu fermes ta gueule. qui est dit de plus en plus fort, mais en fait c'est comme un signal, c'est tu me manques pas de respect. Une fois qu'on a ça qui est entendu, qui est validé, d'un seul coup ça se recalme. Je pense à la tension qu'il peut y avoir aussi avec le groupe de gitans, ouais. où ça crie, ça part dans tous les sens. Et vous arrivez à canaliser justement ça en apportant justement votre expérience de policier. Vous allez mener l'enquête, vous dites tout le monde se calme. Mais à chaque fois, c'est des grosses confrontations. Ça va partir au clash. On a l'impression que ça va exploser.
On a l'impression que c'est juste la fin du monde.
Besoin de se faire respecter. Ouais, et après, ouais, ça redescend tout de suite.
La musique dans vos vies, Damien Bonnard, par exemple, vous écoutiez dans les années 2006-2007. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Alors c'est pas la version de Prince ni celle de Shiny O'Connor, c'est Jimmy Scott, c'est ça?
J'écoute toujours, en vrai, j'écoute toutes les semaines, tout le temps.
Et ça vous fait quoi? Ça vous procure quelles émotions?
Je sais pas, je trouve ça hyper beau. Je trouve qu'en termes d'interprétation, et là, quand il la chante, il a 90 ans. Et en fait, j'ai pu le voir à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, il jouait au New Morning et je l'ai découvert le jour même. Et j'ai été là-bas, j'avais pas de place. Il y avait une queue dehors avec plein de gens qui avaient pas de ticket. Et au moment où lui, il est arrivé dans une limousine en costume blanc, 90 ans ou 92 ans, et il est descendu. Et le videur du New Morning a remonté la queue. On lui avait donné le chiffre de le nombre de personnes qui pourraient rentrer. Et il a passé sa main derrière mon dos. Il a dit après, monsieur, c'est fini.
Ouch.
Et voilà, j'ai vu cet homme chanter une fois et voilà, c'est quelque chose de très beau.
Et vous, Damien, après des études aux Beaux-Arts, après un passage en comme assistant au CNRS, j'essaie de brosser rapidement le parcours, on vous retrouve en 2006 comme coursier pour livrer des sociétés, des boîtes de prod, comme on dit, des sociétés parisiennes de production. Une façon aussi d'être pas loin des infos, justement, pour pouvoir
choper
entrer,
des castings. Ouais.
Entrer.
Ça s'est fait en fait progressivement, mais c'était un métier qui me permettait finalement d'aller presque partout, de découvrir des tas d'univers que je connaissais pas.
Ouais.
Et je rentrais partout en fait avec une enveloppe, on rentre partout.
C'est vrai.
Et on se fait même pas fouiller en plus. et puis petit à petit, quand je me suis dit que je voulais être acteur, comme je livrais plein de boîtes de production, de distribution, tout ça, j'ai commencé à demander s'il y avait de la figure, des choses comme ça. Et puis on m'a donné deux trois plans, et puis petit à petit j'ai avancé comme ça.
Quant à vous, Djibril Zomba, vous écoutiez.
Par le baisse tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? Par le baisse tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène.
Comment être un pitbull quand la vie est une chienne? Ça vous évoque quoi, cette musique de Booba?
Non, moi moi j'ai commencé à écouter du rap à l'époque, Lunatic, Time Bomb, voilà, cet album Westside, c'est un des albums que j'ai beaucoup écouté à cette époque-là, donc c'est rien de particulier.
Ça vous renvoie aucune image, si ce n'est peut-être une rencontre.
Ouais, une rencontre et puis un changement de vie en 2007, c'est-à-dire que
une blessure,
vous étiez ancien joueur de foot pro.
Non, pas pro.
Pas pro, ancien grand bon joueur.
Ouais, j'étais pas mal, j'aurais pu.
Pas mal, non, c'était pas pro, t'es pas bon.
Non, j'étais pas. Non, j'avais des.
À quel moment il s'est pris un boule que... À 11h47, bizarrement.
Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont extrêmement talentueux et qui réussissent pas parce que c'est.
Alors pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas d'agent, parce qu'il n'y a pas de.
Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'agent, c'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, après 98, ça s'est démocratisé, ils ont compris qu'il fallait aller chercher les jeunes en banlieue, etc. Et puis après, c'est beaucoup de chance, hein, au bon endroit, au bon moment. Donc voilà.
Ouais, et puis il faut que le physique suive. Ouais, c'est là aussi où il y a le problème. Quoi. Ouais.
L'hygiène de vie, c'est important. Et puis, la chance.
Mais vous faites une belle rencontre. La chance, elle vient pas dans le foot, mais elle vient après.
Blessé aux adducteurs, vous.
Ouais, ça, c'est un petit.
C'est faux.
C'est faux, ça.
Ah, vous êtes fait mal.
Non, en fait, j'ai pas eu de grosses blessures, mais j'ai souvent eu des problèmes.
Particuliers.
Liés aux. Des déchirures musculaires.
D'accord.
Souvent, derrière la cuisse, c'est ce qui fait que j'ai jamais pu.
C'est un vrai problème d'hygiène de vie, ça.
C'est performant.
C'est sûr.
Ouais, voilà.
Bah
ouais. Non, et puis voilà, après, je sais pas.
Et vous rencontrez Nawal Madani, je voulais en venir là.
Ouais. En 2007
J'ai la sensation, c'est dans cette période-là, en tout cas dans une interview, vous dites voilà, et elle raconte que vous vous êtes rencontrés, vous aviez quoi 22 ans, quelque chose comme ça.
23, ouais.
Ouais.
Et elle est frappée par votre beauté.
Ah bon, c'est ce qu'elle a dit.
Ouais.
Je remarque immédiatement sa beauté.
Non, mais c'est moi qui ai cherché à la rencontrer, par contre.
Lui aussi semble être attiré par moi.
Non, mais je l'ai vue dans un clip et puis j'ai cherché à la rencontrer et j'ai réussi et puis voilà.
Et celle qui vous convainc, notre mannequin en fait, qui
en
vous
fait,
pousse
moi,
à faire
j'avais
des photos.
Déjà commencé quand je rentre, j'ai D'accord. une expérience au Portugal et je rentre et puis je sais pas quoi faire. On me dit tu devrais faire des photos, photos ouais. Et puis je dis ouais, allez, pourquoi pas, ça va, ça a l'air facile. Et finalement, je me rends compte c'est assez compliqué parce que le marché est pas ouvert à l'époque quand on est noir, c'est dur.
C'est moins simple.
Ouais, c'est
mais c'est elle qui a financé votre book ?
Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, elle me dit, il faut que tu ailles aux États-Unis. Et on était déjà ensemble. Et puis on n'avait pas beaucoup d'argent. Et on prend un billet d'avion. Elle me dit, va tenter ta chance là-bas. Et puis, je vais aux États-Unis. Et puis, je signe dans une grosse agence. Et après, ça décolle.
Et là, il faut y aller quoi ? Un peu au bluff ?
Quand on arrive là-bas, ouais.
Faut douter de rien, sinon on est mort, quoi, là-bas.
Ouais, moi, je me suis vite rendu compte que c'était soit ça se passait bien, ou soit fallait rentrer chez toi en France, parce que c'est très compliqué d'être étranger et de réussir dans un autre pays.
Dans ce milieu-là, ouais.
Ouais, parce qu'il y a des. Non, mais même dans tout. Quand tu arrives, tu n'as pas de papier, tu ne peux pas avoir de compte en banque, tu ne peux pas vivre.
C'est fragile de la cuisse et tout, donc faut faire attention.
Faut très attention.
Je ne sais plus où j'en suis là. Ah oui, c'est Alexis. Toujours, c'est Alexis, toujours dans ces mêmes années 2007, vous écoutiez. C'est la même musique que Nicolas Dubochel, ouais, qui écoutait ça absolument vendredi. DJ Mehdi, qui nous a quitté avec Lucky Boy. Là, cette musique, ça vous renvoie dans ces années-là. C'est quelles images vous avez en écoutant ça?
Ouais, moi j'ai connu DJ Mehdi par le biais de ses musiques instrumentales pour des groupes de rap. Et puis après, quand on était dans Court Trajet, il y a à l'époque Pedro Winter du label Headbanger qui avait rencontré Romain, et ensuite il y a eu une autre rencontre avec DJ
Romain
Mehdi.
Romain
Gavras, ouais. Et DJ Mehdi a aussi fait des musiques pour nos courts-métrages. On avait fait un espèce d'objet un peu hybride où il y avait, c'était un CD, DVD avec la musique du court-métrage.
Et là on est dans la période Shaitan.
Ouais, Shaitan, ouais. Kim Chapiron à la réalisation avec Vincent Cassel, Romain Gavras, là je lis, et puis je crois que c'est les débuts aussi de Leïla Bekti, je crois, dans Shaitan.
C'est un ouais, des premiers... je crois que c'est son premier rôle, ouais,
Shaitan. C'est son premier rôle. Là encore une aventure un peu familiale, j'ai la sensation, c'est pourtant, ça fait quoi, quelques années que Court Trajet existe. Quel rôle vous interprétez dans Shaitan, vous vous souvenez?
Alors moi, dans Shaitan, j'ai un tout petit rôle, j'ai une petite apparition.
Ouais.
Et je joue un méchant rappeur dans un clip de rap qui s'appelait Bâtard de Barbare. Et voilà. Non, mais il faut aller regarder le clip, il est sur internet, il est sur YouTube, il s'appelle Bâtard de Barbare.
D'accord.
Shaitan.
Ouais.
Mais je crois que les images et la chanson parlent.
Ouais. Et vous avez toujours désiré être comédien?
Non, moi c'est arrivé un peu par hasard. Ouais. C'est Romain Gavras qui est venu me voir. Ma mère est d'origine yougoslave et il avait écrit un rôle pour un jeune délinquant roumain. Et il m'a dit bon, j'ai besoin de quelqu'un qui parle, j'arrive pas à trouver. Tu parles yougoslave, de toute façon les gens s'en foutent, ils comprennent pas yougoslave, roumain, tout ça. C'était... Et il m'a proposé ce rôle.
Vous parlez réellement yougoslave?
Da.
Ah oui,
ça veut dire que je suis très heureux d'être dans l'émission de Nike.
T'as compris,
je suis bluffé.
Et voilà, et c'est comme ça que en fait j'ai commencé à jouer. C'était surtout pour les courts métrages de Romain Gavras, oui. Et Kim Chapiron, où j'interprétais souvent le même personnage.
D'accord, ok.
Nous recevons Corinne Pellissier. Corinne, bonjour, vous êtes chef du service culture de la rédaction de France Inter. Tout à l'heure, Leïla nous a rappelé que Les Misérables allaient représenter la France aux Oscars. Ça se passe comment?
On croise les doigts, car ce n'est pas tout à fait terminé.
Ah, alors, expliquez-nous alors.
Voilà, il y a un comité de sélection à l'échelle de la France qui va réunir un certain nombre de membres. Alors, il y en a trois qui sont nommés quasiment à vie, membres de droit. Le délégué général
général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, le président aussi des Césars à Interzian, et Serge Tubiana pour Unifrance. Ils sont entourés d'autres personnes, des réalisateurs, des comédiens, qui chaque année...
Ils sont combien en tout? Parce que l'on a l'impression qu'ils ne sont pas nombreux.
Ils sont une dizaine, ils vont se retrouver, ça change tous les ans. Cette année, par exemple, dans le comité, il y a Pierre Salvadori, le réalisateur, Daniel Thompson aussi, Rosalie Varda, la fille d'Agnès Varda. Ils se réunissent à plusieurs reprises pour choisir déjà un certain nombre de films. Et ensuite, il va rester trois finalistes. Et c'est à partir de ces trois finalistes qu'on choisira le film qu'on envoie pour la France. Chaque pays choisit le film qu'il veut envoyer aux Oscars. Ensuite, il y a un comité de sélection aux États-Unis, l'Académie des Oscars, choisir...
On en est
à la sélection finale, donc Les Misérables qui ont été choisis devant La Jeune Fille en Feu et...
Céline Sciamma.
Et voilà, Céline Sciamma et le film d'Alice Vinocourt, Proxima. Oui, donc, pour l'instant, c'est Les Misérables qui représenteront la France, quoi qu'il arrive.
Ça, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi vous avez dit que ce n'est pas encore fait? Qu'est-ce qui reste comme...
Les Américains.
Il reste les Américains, oui, exactement. Bon, les Américains vont réfléchir aussi et livrer leur shortlist.
Ah, maintenant que tu as dit ça, Nagui, je pense que c'est bon.
Ah, ouais.
Ils vont se calmer, les Américains. Ah,
non, mais c'est dans la catégorie.
Il ne restera que 5 pays à la fin qui représenteront.
Le film étranger.
Les films étrangers.
D'accord. Et alors là, ce sont... Il y a quoi? Il y a un comité, il y a un jury, ou c'est aussi le trafic d'influence? On entendait à l'époque.
Mais est-ce que ça sent bon, Corinne Pélissier?
Non, attendez.
Est-ce que ça sent bon?
Il fut un temps, il fallait passer par le fameux Harvey Weinstein pour pouvoir être représenté aux États-Unis.
Alors tout ça, c'est terminé, effectivement.
On sentait qu'il y avait un côté lobby. Avec quel film va être distribué, quels sont les réseaux, et il faut que tel pays soit représenté plutôt qu'un autre, parce qu'il y a quand même une affaire commerciale derrière ça.
La campagne prend beaucoup de temps à toutes les équipes.
Et d'argent, j'imagine.
Énormément d'argent. On a l'habitude de dire que le coût moyen d'une campagne, c'est à peu près 10 millions de dollars. La moitié qui est consacrée à de l'achat de pubs, à la télévision, dans les journaux aux États-Unis. Mais aussi une grosse partie qui va être utilisée pour ce qu'on appelle les screeners. Ce sont les DVD qui sont envoyé à tous les membres, à tous les votants. Il y a aussi des frais, on renforce les équipes, il faut organiser des interviews, il faut organiser des projections, des soirées, de temps en temps faire un petit cadeau.
Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est le pacte qui distribue le film, et les producteurs qui doivent mettre la main à la poche pour financer l'arrivée des Misérables aux Oscars?
Il va falloir ramasser un petit peu d'argent.
Non,
c'est de l'argent privé, et il y a aussi quelques fonds publics qui vont venir en soutien.
Non, c'est le distributeur américain, c'est Amazon.
Oui.
Donc c'est Amazon.
Amazon a racheté les droits du film, donc.
Cas particulier, c'est-à-dire que Daniel Morin nous disait, est-ce que ça sent bon?
La réponse est
oui, parce que le film, même s'il n'est pas encore dans la fameuse shortlist des 5 finalistes que l'on connaîtra à peu près mi-janvier.
D'accord.
Mi-janvier 2020. Le film coche quand même beaucoup de cases. Effectivement, les éléments les plus intéressants pour le film, c'est Amazon qui, dès sa première projection à Cannes, a dit « Moi, j'achète les droits du film, c'est formidable. » Le film a été acheté par beaucoup de pays aussi. Mais effectivement, c'est un plus...
C'est nouveau ça qu'une plateforme se mêle du jeu de la production et de la distribution.
Le rôle des plateformes est assez récent de toute façon dans l'industrie du cinéma, mais l'année dernière Netflix avait fait un peu un hold-up avec le film Roma d'Alfonso Cuarón.
Ouais, c'est vrai.
C'est eux qui avaient raflé la mise. Ouais. Mais en même temps, le film était juste
super,
comme génial,
Les Misérables.
Comme Les Misérables.
Même réflexe.
Le film étant totalement en noir et blanc, c'est ma mémoire est bonne de ce.
Tout à fait.
C'est ça. Est-ce que la course aux Oscars, c'est une grosse... On va dire quoi? Peut-être pas magouille, mais enfin tout est joué d'avance ou pas? Je parle pas spécialement des Misérables, je parle des Oscars.
En fait, c'est complètement impossible de savoir ce que va décider le jury, les votants américains, les membres de l'Académie.
Est-ce que les votants sont comme pour les Césars, ce sont que des professionnels?
Ce sont des professionnels qui sont issus de 17 catégories de l'industrie. Voilà, il y a les acteurs, les monteurs, mais il y a aussi les coiffeurs, il y a aussi les décorateurs. Donc il y a
comme en France, comme pour les Césars.
C'est ça.
Voilà, autour de 6000 membres. L'année dernière, c'était 7902 membres qui sont renouvelés. Avant, ils étaient nommés à vie. Aujourd'hui, ils sont renouvelés tous les 10 ans. Et depuis quelques années, de plus en plus de femmes, de plus en plus de minorités qui sont représentées parce qu'on a beaucoup fait ce procès aux Oscars. Le fameux hashtag en 2018, Oscar so white, parce que justement, c'était à l'époque 93% de blancs, 75% d'hommes. Ouais. Il fallait un peu secouer le coco.
Cocotier, oui, c'est ça. Merci Corinne Pélissier d'être venue bien nous expliquer. On a compris maintenant le mode de fonctionnement de ces Oscars.
Et ça sent bon.
On croise les droits et ça sent bon pour les misérables chefs du service culture de la rédaction de France Inter. Merci Corinne. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
En Grande-Bretagne, le prince Andrew ne va pas bien.
Non, il est mal puisqu'il est accusé de viol par une femme qui avait 17 ans quand ça s'est passé. Et comme il était pote avec Jeffrey Epstein, le pédophile mondain pour qui une vieille dame s'était louane, eh ben il a du mal à se défendre. Samedi, il a essayé de le faire sur la BBC. Ça a été un désastre.
On en reparle après les infos.
La deuxième partie de la bande originale, monsieur Nagui.
Oui, les
lacs à l'air boudet.
Et voilà, ça rime. C'est pour ça qu'on est ensemble. Ça,
c'est que pour la rime.
C'est pour la rime. C'était là, ouais.
Merci Laetitia Gaillier, retour de l'info à 13h avec le journal de...
13h et de Bruno Duby.
Toute l'après-midi, elle sera là pour nous informer. À tout à l'heure, Laetitia Gaillier.
Ciao.
Avec les lacs à l'air boudet.
Bonjour à tous.
Marina Rollman, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Sam Villard.
Bonjour.
Et nos invités, Damien Bonnard, Alexis Malenti et Jébri Zonga.
Là. C'est propre. Bravo.
C'est propre.
Bravo. Ouais.
J'ai insisté sur le Jébril et pas le Jibril.
C'est oui, il y en a qui font l'erreur. Et
c'est,
puis,
non, c'est le problème du football. C'est, à un moment donné, t'as eu un 6C, donc tu te dis, ouais. Ok, football, Jibril, point.
Daniel, il y a moins de confusion.
Non, d'ailleurs. Beaucoup moins de confusion.
Daniel Guichard, mais il est mort.
Non, il n'est pas mort.
Il est en camping-car, ça n'a rien à voir.
Les Misérables, signé Ladj Lee, avec donc vous trois, messieurs, Issa Perica, Alassane Lee, Steve Tientieu, Almani Kanouté, Nizar Ben Fatma, Jeanne Balibar. Alors là, il s'est passé un truc assez marrant. Tu me racontais que...
Qu'elle tournait à Montfermeil, c'est ça, je crois, et qu'elle avait besoin d'un coup de main, et c'est Ladjli qui arrivait à la rescousse.
Ouais, elle a tourné un long métrage l'année, peut-être quelques mois avant, elle a fini, peut-être quelques mois
juste
avant.
Quelques mois avant, ouais.
Et je sais pas quand est-ce qu'il sort, bientôt, je pense d'ailleurs.
Ouais, bientôt, ouais.
Et du coup, ouais, ils ont travaillé ensemble, Ladj avec elle, et puis elle est venue faire un truc sur notre film aussi.
Non, mais c'est un peu ce que vous racontiez tout à l'heure dans l'esprit de Courtrage Mais, c'est-à-dire que tu me rends un service, je te rends un service, et puis tu m'apportes un bout de ton salon, et tu deviens chef déco, et t'as besoin d'un peu d'une caméra, et tu viens jouer dans mon film, quoi, c'est ça. C'est l'esprit.
Bah, Ladj, il est comme ça, il aime bien partager, et puis ce film aussi, c'était... l'occasion pour lui un peu de travailler avec des personnes autour de lui qui lui avaient déjà tendu la main et également tous les habitants qui il y a plus de 200 personnes des habitants de Clichy-sous-Bois
qui jouent, qui travaillent
sur le film, soit qui jouent, soit qu'on travaillait sur le film. Donc
ça a été simple d'ailleurs de tourner dans la cité, Djibril. Ouais.
Très très simple.
Tout le monde avait envie d'en être.
Tout le monde avait envie d'en être. Comme vient de le dire Alexis, là il a impliqué énormément de monde. Et
il n'y a pas une crainte par moment de dire mais qu'est-ce que vous allez montrer de nous, comment vous allez, on n'est pas des bêtes de foire, on n'est pas non plus dans un zoo.
Non, il n'y a pas eu ça. Après il s'est passé sur le court métrage fois il y a un monsieur qui est sorti de chez lui et qui a demandé ce qu'on était en train de faire et là je lui ai expliqué et en fait il avait honte de l'endroit de qu'on d'accord. puisse filmer ça.
Ouais, il voulait pas qu'on voit les conditions dans lesquelles il vivait.
Il nous a demandé.
Pourtant c'est ça, hein, les cages d'escalier, les boîtes aux lettres éventrées, les tags sur tous les murs.
Il voulait
c'est
pas
ça.
Que le monde le voit.
Pour dire à quel point les gens voilà ont tellement l'habitude d'y vivre, mais voilà.
Ils ont une pudeur aussi.
Ils ont une pudeur, exactement.
Ouais. Et pourtant, ces misérables-là, encore une fois, misérables humainement, pas tant que ça. Misérable, c'est aussi... ça peut être le regard que l'on qu'on a sur la police, ça peut être le regard qu'on a sur les différents groupes ou clans, je sais pas quel nom leur donner, ou bandes en tout cas, mais chacun...
C'est la misère et le chômage aussi,
c'est ouais, ça. C'est ça, et puis c'est surtout de la situation dans laquelle on l'aimait c'est tous ça. Les uns et les autres, en attendant que... Il y a des moments où on se dit, ouais, on attend que ça pète, quoi. Et on se demande d'ailleurs comment ça pète pas plus souvent
que ça. C'est un miracle que ça pète pas.
Peut-être tellement il y a des raisons, presque tous les jours il y a une raison supplémentaire. Tous les jours il peut y avoir un conflit, il peut y avoir un problème à régler.
Ouais, ouais, c'est vrai que tous les jours il peut se passer quelque chose. Après.
Et même ceux qui sont censés être les assistants sociaux ou en tout cas être là pour calmer les uns ou les autres, c'est aussi un autre groupe, c'est aussi une autre bande.
Puis c'est aussi tous les jours, le constat c'est que tous les jours il n'y a pas grand chose de possible aussi en vrai.
Ouais, ouais.
C'est un peu ça.
Les Misérables a reçu le prix du jury au Festival de Cannes en mai dernier. Il y a eu une palme d'or alternative, un cinéma engagé socialement ou politiquement en marge du festival. Et cette année, le prix a été décerné au film donc de Lajli, Les Misérables, pour l'engagement en faveur de la justice sociale. Je vais y arriver. Et puis il y a plein de prix. Il y a le prix CSTR. Je ne connais pas ce prix. Vous savez ce que c'est ?
Je crois que c'est
technicien, non ?
Ouais, c'était pour l'image pour et le montage. Ouais.
D'accord. Flora Volpelière, ouais. Donc, pour le montage, et Julien Poupard pour le cadre et la lumière. Et c'est vrai que la réalisation, la caméra comme ça qui est en mouvement, la lumière, l'ambiance, tout y est. C'est un très, très, très bon film.
Bravo,
bravo les garçons.
Merci.
C'est une réussite, c'est Misérable. Ça sort après-demain au cinéma. Voici Tanguy Passion. On connaît mal le prince Andrew.
Oui, parce qu'on a zigouillé nos monarques, donc c'est pas pour se taper ceux des autres. En France, seules quelques personnes désocialisées, comme Stéphane Bern ou ma tante Ghislaine Kiligala, s'y intéressent encore. Nous, nos rois, c'est différent, on les élit une fois tous les 5 ans. En général, ils sont tellement nuls que ça nous paraît durer 35 ans. À cause d'eux, on vieillit au même rythme que les chiens, une année égale 7. Donc le prince Andrew, explication, c'est le deuxième fils d'Elisabeth II, qui en tout a eu 4 lardons. Encore 2, il faisait une flamme et une cuche. Il est 8e dans l'ordre de succession au trône, donc il a vite compris qu'il n'aurait jamais le job. Et il végète en attendant la mort. En 2006, pour lui faire plaisir, la reine l'a fait chevalier de l'ordre de la jarretière, ce qui n'est pas un truc vaguement porno pour fétichiste des cuisses, mais la plus haute récompense en Angleterre. Alors qu'en Corée du Nord, par exemple, c'est un bisou de Kim Jong-un, suivi de ces mots de sa part, toi, t'as la joue douce, du coup, je t'autorise à vivre. Bref, le prince Andrew a une existence vide, preuve de celle de Benny B ou Benoît Hamon. Il n'a que 59 ans. Or, Alain Duhamel, qui a 4 fois son âge, a une actualité plus chargée. Donc, que fait-on quand on s'ennuie? Eh ben, on part en vrille. Il faut occuper les gens. Si Daniel Morin n'avait pas ses 2 chroniques quotidiennes à Inter, eh bien, il se prostituerait auprès de femmes tibétaines nostalgiques de la figure du Yéti. Ouais. Le souci, c'est que le prince Andrew est parti en vrille, mais avec Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel de la haute, qui cet été en prison, s'est fait assassiner par une corde qui l'a pendu. Et une dame, Virginia Giuffre, l'accuse quand elle avait 17 ans de l'avoir violée dans une maison appartenant à la compagne d'Epstein à Londres, puis à New York, puis sur une île privée appartenant à Epstein, ou même les tortues de mer n'osaient pas se balader de peur de se faire abuser par ce timbré. Donc jusqu'à présent, la parole de cette femme, on y accordait moins d'importance qu'à la carrière de Philippe Risoli. Mais depuis MeToo, les médias se disent « Tiens, et si notre Andrew faisait partie du petit groupe d'intouchables qui ont passé leur vie tout en haut de la pyramide sans slip ?» Ce qui est dangereux parce qu'on peut se piquer les fesses. Résultat, samedi, le prince Andrew s'est senti obligé de s'expliquer et il a accordé une interview vérité à la BBC où il a raconté n'importe quoi. Je pense qu'il est coaché par les gens qui ont fait les campagnes électorales de Jacques Cheminade. Déjà, il nie toute relation avec Virginia Giuffre, alors qu'il y a des photos d'eux prises il y a 20 ans dans des soirées collées l'un contre l'autre, telle une tomate à de la viande de mouton dans un kebab. Il dit « Je ne savais pas qu'elle était mineure », alors ce que tout homme impliqué dans une relation avec une mineure dit. Hein, jamais qui que ce soit ne répond « Ouais, j'ai deviné qu'elle était un peu jeune quand elle m'a montré sa collection de cartes Pokémon hein. ». Puis la journaliste de la BBC lui dit « D'après Virginia, en 2001, elle vous a rencontré en discothèque, vous transpiriez abondamment sur le dance floor. Hein, c'est le gros problème de la danse. On su. Hein, une finale de danse avec les stars, niveau odeur, on est sur le mondial du trot de poney. » Et là, Andrew dit « Impossible, je ne transpire plus depuis 82 à cause d'un choc traumatique pendant la guerre des Malouines. » Il était
Qu'est-ce
militaire.
Que hein,
ce qui serait pratique si c'était vrai, parce que même au premier rang d'un concert de Céline Dion, sa sueur froide ne chercherait pas à s'extraire de son corps et fuir, Nagui.
Mais alors, c'est quoi cette histoire de transpiration ?
Eh bien, c'est faux d'abord, parce que le Sunday Times hier a publié une photo de lui datant de 2000, où il est en nage. Mais peut-être parce que c'est un prince, ne sut-il pas des fait au-dessus de lui l'aspère sans doute de poussière d'or et ça brille. Hein, il ne fait pas non plus ni pipi ni popo, mais à la place produit des bagues de chez Cartier. Les employés de maison ensuite se battent pour récurer ses WC. Donc, il a menti. Ensuite, la journaliste lui dit « Que faisiez-vous le 10 mars 2001 ?» Date à laquelle la personne dit qu'il l'a violée. Si vous demandez ça à n'importe qui, il est incapable de vous répondre. À part Michel Polnareff qui vous dira qu'il est en train de se démêler les cheveux comme le 9 mars et le 11 mars, puis tous les jours de sa vie. Et là, Andrew répond « J'étais chez Pizza Express à Woking, une ville anglaise. » Il se souvient de tout très précisément. Le 4 mai 77, il vous dira « J'étais au ciné pour la première de Star Wars, 4e rangée, j'avais pris du popcorn à 50 pence le cornet, j'avais un slip bleu. » La journaliste, aussi estomaquée que si elle avait entendu le groupe Boulevard Désert en duo avec le chanteur d'Iron Maiden, lui dit « Comment pouvez-vous vous rappeler si bien de faits si anciens ?» Il répond « Je ne sais pas, je suis allé 2-3 fois à Woking, je m'en souviens extrêmement bien. » Alors que Woking, c'est un bled sans importance, c'est l'équivalent anglais de Guéret dans la Creuse. Donc de manière naturelle, le cerveau cherche à oublier tous ses jours à Woking. À Woking, des gens hébétés errent en disant « Que fais-je ici ?» Enfin, on demande au prince « Mais pourquoi avez-vous passé 4 jours chez Jeffrey Epstein en 2010 alors qu'il sortait juste de prison pour pédophilie ?» Andrew répond « En fait, j'y suis allé pour lui dire que notre relation devait s'arrêter là. » Donc juste pour dire au revoir à l'autre, il fait 7 heures d'avion, plus le transfert, plus le séjour sur place. C'est un monsieur qui ne connaît pas le téléphone. Hein, lui, quand il commande un truc avec Uber Eats sur Internet, il prend sa voiture et tourne toute la nuit pour chercher le livreur qui galère à vélo et récupérer en personne sa pizza. Hein, enfin, de Jeffrey Epstein, son ami, il dit quand même qu'il était honorable, puis il finit par dire, parce que devant l'assistance de la journaliste, ouais, il a eu un comportement inconvenant. Inconvenant. Je rappelle qu'il est tombé pour pédophilie et était accusé de trafic sexuel de jeunes filles. Donc je sais pas à quel moment on cesse d'être inconvenant et on devient un fils de prince, tiens, voilà. De prince. Bah, si on prend juste en exemple Andrew, fils de prince, ça a du sens.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Des questions rapides sur tout ce qui se passe dans l'actualité du cinéma en ce moment. Et vous pouvez essayer, Damien, Alexis et Djibril, de trouver également. Par exemple, l'actrice oscarisée Monique a porté plainte contre Netflix. Mais pour quelle raison?
Ils n'ont pas voulu la payer pour son film, je crois. 11 millions.
Quoi?
Ouais, je sais pas, elle avait un contrat avec Netflix. Est-ce qu'ils ont annulé le film?
Par rapport au nombre de vues, au succès.
Payez Monique.
Non,
c'est qui Monique?
Pas exact.
Monique.
Mo apostrophe
Nick. C'est une comédienne américaine.
Ok.
Mais c'est pas ça.
Si.
Bah non, c'est pas ça. Écoute, bon,
alors,
tu peux rien.
Alors vas-y, c'est quoi la question?
Elle a porté plainte contre Netflix pour quelle raison? Ils ont pas voulu la payer, oui, mais c'est toi tu dis c'est rupture de contrat et on ne paye pas. C'est...
Ils n'ont pas respecté le contrat, ils n'ont pas...
Ils n'ont pas respecté la somme. Ils s'étaient mis d'accord sur... Okay.
Non, il y a...
Ils n'ont pas sorti son film.
La promo, ils ont pas annoncé.
Il y a un problème. Non, il y a un problème en effet de salaire. Ils ont pas voulu la payer.
Ah, l'équité.
Oui, exactement. Problème d'équité, d'égalité salariale. Elle les accuse de lui avoir proposé un contrat au rabais parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est noire. Dans sa plainte, l'artiste estime que Netflix lui offrait début 2018 pour une émission spéciale dédiée au stand-up la somme discriminatoire de $500,000.
Non mais c'est discriminatoire, c'est le mec qui prend le double. Hein.
Ouais, si le mec prend le double, c'est clair.
Voilà. Je devais faire un choix, je pouvais accepter ce que je considérais comme de la discrimination salariale ou je pouvais défendre ceux qui m'ont précédé, ceux qui me suivront. La plainte considère que l'offre de Netflix perpétue les différences de salaire imposées aux femmes noires qui ne gagnent en moyenne aux États-Unis que 61% des sommes versées aux hommes blancs. Tous les trois, vous avez été payés de la même façon?
Non, j'ai été payé un peu plus.
Ah, d'accord.
Mais non, je voulais préciser justement, il y a une grille des salaires. Non, bien sûr que c'est vrai.
Attends, on va discuter après.
Mais notoriété un peu plus.
Faut juste changer d'agent.
Je voulais juste en profiter pour dire il y a une grille des salaires qui a été publiée là sur le site de 50-50 où on peut voir les écarts suivant les postes. Il y a des très grands écarts entre hommes et femmes encore aujourd'hui sur tous les postes.
Pour le même boulot.
Exactement. De la régie à la script, enfin ça dépend des postes en fait. Mais il y a des gros écarts. Vous les regardez, c'est sur Internet.
Même encore au cinéma?
Ouais. Ah oui, je parle des postes de métier cinéma.
Ah, c'est que métier cinéma, pardon.
50-50, c'est l'assaut, voilà.
Ouais. Et ils ont publié ça.
Pour l'équité, c'est pas normal. Dans ce milieu.
Mais
comment Neil Young compte-t-il s'opposer à Donald Trump?
En chantant pas, refusant qu'il utilise ses musiques.
C'est une idée géniale.
En faisant comme s'il n'avait pas existé.
Non, on peut tous le faire.
Enfin, se déclarer mort.
Non.
En arrêtant de le suivre sur Twitter, en le bloquant.
Comment combattre Donald Trump? Comment éviter qu'il soit réélu?
Ouais. Ah, réélu?
Ouais. Ouais, c'est pour les élections.
En n'allant pas voter.
En votant pour quelqu'un d'autre, en faisant la campagne pour quelqu'un d'autre. En faisant la campagne, en votant, pour lui, en se présentant.
En votant, oui. Mais Neil Young.
En faisant campagne pour un opposant?
Non.
En votant pour lui, pour Neil Young, il va se présenter.
Il va voter contre Donald Trump, mais avant de ça, qu'est-ce qu'il doit faire?
Ah, il va déménager, il va aller dans des swing states, il va aller dans des états où.
Mais non.
Bah, je vais prendre ça. Il est canadien, Neil Young. Et en fait, il demande la nationalité américaine pour voter contre Donald Trump.
Ah, d'accord. Bon, ouais.
Pas sûr qu'il l'obtienne. Ouais, en même temps, il avait un peu prévenu avant.
Ouais, oui. Et est-ce que tu as le droit de vote tout de suite une fois que tu as la nationalité? Ça m'a pas un
non,
petit peu de temps à déclencher.
Non, mais je trouve un peu particulier. Ouais. Ouais. Est-ce que, au même titre que Neil Young, vous êtes tous les trois des artistes, est-ce que l'engagement, est-ce que la politique, c'est des choses qui vous concernent ou pas? Alexis, puisque vous regardez les autres pour qu'ils répondent, je vous pose la question à vous.
Bien joué, c'est trop bien classe.
Bien joué.
C'est trop bien.
Oui, moi, mon engagement, je le mets surtout par les rôles que je défends et les films que je choisis de faire. Parce que je pense que c'est là où je trouve que je... Enfin, c'est l'espace que je veux trouver. Et,
de la même manière qu'une chanson peut changer le monde, une œuvre d'art peut changer. Une opinion, un film, une toile, une sculpture, ça peut changer. C'est un combat qui est politique.
Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense que ça peut...
Encore faut-il qu'il soit
quel,
vu, quoi.
Quel changement, ouais. À quel endroit. Mais oui, heureusement.
Damien,
moi jusqu'à maintenant, je pensais que l'engagement artistique suffisait, parce qu'en vrai, je pense que je m'étais engagé comme ça parce que j'avais pas le courage de. Enfin,
d'afficher vos opinions ou de les.
Ouais. Petit à petit, je continue à y croire. Je pense qu'un film peut changer des tas de choses. Enfin, plein d'œuvres d'art peuvent faire des choses dans la vie et provoquer, changer, questionner. Mais de plus en plus, je me dis qu'il va falloir des fois accompagner ça. Mais après, c'est un truc voilà, moi,
sûr,
dans
perso,
mon quotidien.
Ouais. Mais ça d'accompagner, c'est avec l'associatif ou carrément devenir militant
pas, sous différentes formes, mais c'est même des gestes du quotidien, des tas de choses. Enfin voilà, juste pas essayer de sauver que sa peau à soi, quoi.
Mmh. Être citoyen pour tout le monde,
bah,
pour les
ouais,
autres.
Comme ouais. Notre monde, il devient de plus en plus dur et de plus en plus violent.
C'est sûr. Gébril, est-ce que il faut être engagé? Avez-vous envie d'être engagé ou au contraire, vous dites c'est pas le rôle d'un
non, mais
de l'acteur?
J'ai pas cette envie. Après, c'est vrai qu'en étant dans ce film.
C'est un engagement.
C'est un engagement. Clairement. Après, c'était pas le but. Et bon, après, quand ça arrive, il faut l'accepter. Il faut essayer de.
C'est-à-dire que si on vous demande de participer à une campagne électorale, politique ou à une vie associative ou à prendre fait et cause pour une défense quelconque, vous...
bah ça dépend quoi.
Ça dépend le combat.
Dépend le combat exactement.
Il y a un combat qui vous touche plus qu'un autre?
Non. Non, non, après, ça, honnêtement, je...
Aucun. Il n'y a pas un truc...
qui résonne plus.
Ça me semble pas long, hein. Ça me semble difficile de croire qu'il n'y a pas un
non,
truc
non, mais c'est pas qu'il n'y a pas un truc. Il y a plein de choses qui m'agacent. Ouais. Énormément de choses. Il y en a tellement...
Et plus que d'autres, plus que d'autres.
Après, moi, je viens de banlieue, je représente une minorité, je suis... voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce combat-là que j'ai envie de défendre.
Bah, il est déjà costaud, oui. Mais, c'est ce qui se passe avec les misérables.
Mais ouais, c'est ce qui se passe avec les misérables. Mais après, en même temps, on a toujours, on a grandi comme ça, on a vécu de cette manière. On se débrouille tout seul. On n'attend rien de personne. Donc c'est devenu normal en fait.
Je vais vous proposer quelque chose ou quelqu'un qui vous agace, qui va vous agacer encore plus que n'importe qui sur cette planète. Voici Daniel Morin.
Il y en a encore plein. C'est Noël avant l'heure sur la côte atlantique. On a déjà plus d'une tonne de cocaïne ramassée par les autorités de la Loire-Atlantique aux Pays-Bas. C'est la cueillette miraculeuse, les amis. Un arrivage plutôt original qui provient sans doute d'une opération de largage en mer à cause d'une avarie ou la peur d'un contrôle dans les stations balnéaires dont l'activité avait chuté depuis septembre. On relance à fond les campagnes de com. Novembre, l'angoisse, le spleen, le blues, ça caille, il pleut, il neige même parfois. Encore 5 semaines à tirer avant Noël, ça va être long. En attendant, pourquoi ne pas faire un petit break? Changer d'air, retrouver tonus et énergie avant d'attaquer la dinde au marron. Alors venez, oui, venez. Venez à Biarritz, l'eau est claire, l'air est mélangé, mais il est glacé, le sable est généreux, pour qui sait se baisser, il y a beaucoup mieux à faire que des pâtés, il y a plein de petits sachets qui vous donneront tonus et joie de vivre. Après 2 grammes de coke, l'eau n'est plus froide, après 3 grammes, l'air est doux, après 5 grammes, on a envie de faire l'amour aux dauphins, après 10 grammes, on trouve les dauphins. N'attendez pas à réserver auprès de l'office du tourisme de Biarritz pour un séjour d'automne euphorisant. Venez goûter aux traditions du Pays Basque, son jambon de Bayonne à la coke et sa cocaïne parfumée au piment d'Espelette. Moi, j'ai passé le week-end sur la côte, j'en reviens, et ben, je peux vous garantir, j'étais pas seul. Hein. Ouh, Marina, on était nombreux. Hein. Nagui, on nous a rapporté un cadeau avec Marina. Non. Une paire d'espadrilles en toile de cocaïne. C'est moche, mais une fois qu'on a reniflé la semelle, on les trouve hyper belles. Alors, je suis passé à Biarritz, mais je suis aussi remonté plus au nord. Je suis passé du côté d'Arcachon. Et je peux vous dire que les ostréiculteurs sont au taquet. Venez manger des huîtres d'Arcachon. En ce moment, grosse promo sur les huîtres à la coke. C'est super bon, c'est super tonique. De l'iode, des oméga 3, cocaïne pure à 83%. C'est les meilleures huîtres qu'on ait jamais mangées. Le poisson aussi est délicieusement cocaïné. Ce matin, j'ai pêché un bar. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit: hola hombre, me llamo Pablo, je suis le roi de la coke de Biscarros à Biarritz. Je connais personnellement Frédéric Becbédé. Mange-moi avec respect. Même les crabes sont chargés à 83%. Tu manges une pince, tu peux danser toute la nuit. C'est la meilleure période de l'année pour consommer les fruits de mer. Venez à Arcachon, c'est le spot du moment, vous devriez y aller. Le problème, c'est que les autorités ferment de plus en plus... j'ai encore un peu de coke dans la dent creuse. Ferment de plus en plus de plages. Pour une fois qu'il se passe quelque chose de bien. Voilà, on n'a pas le droit. Dommage que cet arrivage miraculeux ne soit pas arrivé fin août, pendant le G7. On a renvoyé Donald Trump sur la plage, il aurait sniffé comme un malade tous les jours, et allez savoir, peut-être que défoncé, il est moins con. À demain.
Merci. Djibril Zonga, de quoi seront faits les mois qui viennent? Vous avez des projets, des envies, des idées?
J'ai des envies, j'en ai beaucoup. Après, on verra ce qui va se passer. Et moi, j'aime bien être surpris. Je préfère vivre au jour le jour.
Et vous êtes patient?
Je suis très patient, de toute façon, j'ai pas le choix.
Belle formule. Quant à vous, Alexis Mananti, vous venez de tourner Les années 10, c'est ça?
Oui, exact.
De Thierry de Peretti avec Pio Marmaille, vous y faites quoi?
J'interprète le rôle d'un journaliste de Libération. Il y a également Roche Dizem et Vincent Lindon à l'affiche de ce film, qui traite d'un scandale d'État autour du trafic de stupéfiants.
Très bien. Damien Bonin, vous êtes dans Seules les bêtes?
Ouais, qui sort le 4 décembre, le prochain film de
Dominique Moll, avec Valeria Bruni-Tedeschi, Laure Calamy,
Denis Ménochet, Alain Terkavitch, Bastien Bouillon.
Parfait. Et puis surtout, C'est misérable demain, un film dingue. Je sais pas comment vous convaincre, si ce n'est de vous dire que vraiment...
Allez-y plutôt après-demain, vous aurez plus de place. Hein. Demain, c'est
mercredi. Mercredi, pardon.
S'il y a une sortie ciné à faire, c'est celle-ci, en fait.
Ouais, c'est le film à voir.
Cette semaine et les semaines qui vont venir aussi, ce sera le film à voir, je crois.
Vous allez vous faire embarquer. Qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère Marina Rollman, de cette émission?
C'est fort, Les Misérables, parce que... c'est intéressant de voir le réel à travers le prisme de la fiction. C'est-à-dire que soit on voit BFM et c'est pas ça, soit on veut s'échapper dans une œuvre d'art. Et je trouve que là, c'est la bonne rencontre des deux et c'est important.
Tom Mila.
Justement, il y a Bernard de la Villardière qui a décidé.
Merci.
Un peu spécial.
Daniel Morin.
Moi, j'ai juste été soufflé par le film. Alors, allez vous faire souffler après-demain aussi.
Ouais, exactement. Je suis d'accord avec vous. C'est une claque et il faut le voir absolument. Des excuses à présenter, Daniel?
Bon, là, bien évidemment. Désolé déjà pour Alexis Mananti. Alors, ce matin, lors de l'interview, il s'est retrouvé obligé de répondre à des questions de Nagui. Et encore, attention, c'est une première. Ce matin, les questions de Nagui étaient courtes et compréhensibles. Vous pouvez vous estimer heureux. Désolé pour monsieur et madame Courtrajmé qui ont été blessés par la façon dont Alexis a décrit leur famille. Et ça va, le fils qui sort de tôle et le cousin qui boite, il y en a aussi dans la famille de Nagui, et à part lui, sont des gens bien. Et enfin, rapport aux misérables aux Oscars, hein, désolé pour les Américains qui ont entendu ce matin les menaces de Nagui. Alors, j'ai eu notre brave Donald Trump au téléphone à la pause et il m'a dit: faut qu'il fasse gaffe, Nagui. Le dernier arabe qui m'a fait chier, c'était El-Baghdadi, le chef de Daesh. Vous avez vu comment il a fini. Attention, Nagui.
Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de votre film, Damien?
Des Misérables?
Ouais, Des Misérables, ouais. Vous aimeriez que quelqu'un sorte de la salle et dise quoi?
Je crois que le plus beau, c'est quand les gens ne parlent pas, en fait, quand ils ressentent un truc.
Alexis.
Ouais, il m'a volé la réponse.
Ah, je pense que
c'est... en général, les gens quand ils sortent du film, ils mettent un peu de temps à redescendre.
C'est la force de la fin. La fin, elle est dingue aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on a, on reste muet, ouais.
Et il y a un silence. Il y a un moment de réflexion qui est beau.
Djibril.
Ouais, c'est à peu près la même chose. Et c'est les gens qui nous disent que ça fait du bien et que c'est important qui est ce film, en fait.
Ben, j'espère que c'est ce que vous avez ressenti dans ce que l'on a vécu, nous aussi, en vous le disant aujourd'hui. Ouais, bravo. Les Misérables, après-demain au cinéma. Demain, c'est Cyril Lignac qui sera notre invité. Nous parlerons cuisine. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci encore à tous les trois.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Merci. Merci.